Bien, bonjour à tous et bienvenue donc pour ce dernier cours de l'année 2010, mais rassurez-vous, nous continuons donc dès le début 2011. Alors, nous avons vu la semaine dernière que comment le second moment de mondialisation de Confucius est à comprendre dans la perspective plus large de l'introduction de la catégorie philosophie dans la Chine du XXe siècle en pleine quête de modernité occidentale. À ce titre, nous avons vu que les deux grands intellectuels chinois associés au nouveau genre des histoires de la philosophie chinoise, à savoir Hu Shi d'une part et Feng Youlan d'autre part, se trouvent avoir été donc tous les deux d'abord formés à l'école de la philosophie américaine, notamment à celle du pragmatisme américain représentée par John Dewey. De fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, c'est l'histoire de la philosophie chinoise de Feng Youlan qui est retenue par le philosophe français Maurice Merleau-Ponty comme référence pour la partie consacrée à l'Orient et la philosophie dans le volume collectif qu'il dirige, Les philosophes célèbres, et qui paraît donc en 1956. Nous avons vu aussi que, bien qu'ayant été tous les deux donc formés en doctorat à quelques années près par Dewey, Hu Shi et Feng Youlan conçoivent l'histoire de la philosophie chinoise dans des perspectives et dans des termes assez différents. Puisque, tandis que Hu Shi recherche dans la philosophie chinoise ce qu'il appelle le développement d'une méthode logique, donc transcrit phonétiquement en chinois luoji, Feng Youlan, pour sa part, met l'accent sur les qualifications de la philosophie comme systématique, xitong, et réflexive, zijue. Cependant, Hu Shi et Feng Youlan se rejoignent totalement dans la conviction que non seulement il existe une philosophie chinoise, mais que cette philosophie chinoise est appelée à prendre part et à contribuer à la philosophie mondiale à venir, ce qu'ils appellent, dans des termes approchants, donc « shì jiè jiāng lái de zhè xuè », c'est-à-dire donc cette zhè xuè, vous reconnaissez donc ce terme donc inventé au Japon, qui désigne donc la philosophie au sens occidental du terme, hein. Tianglai, ça veut dire ce qui est à venir, et Shijie étant donc le monde ou ce qui est donc à dimension mondiale. Alors, cet appel à reconnaître l'existence d'une philosophie chinoise revient à revendiquer donc une parole philosophique propre à la Chine et qui ne soit pas qu'un seul ou qu'un simple prétexte servant en réalité à alimenter des débats spécifiquement européens, comme c'était le cas au temps des Lumières et comme c'est encore parfois le cas aujourd'hui, notamment ici en France, où on se plaît parfois à se servir de la Chine, de la Chine, pour penser en creux, en miroir ou en comparaison l'impensé de la pensée occidentale. Alors, autrement dit, pour nos intellectuels chinois du XXe siècle, le temps n'est plus à penser la Chine, mais à reconnaître que la Chine est éventuellement capable de penser par elle-même. D'où le titre de ma leçon inaugurale, ici au Collège de France, « La Chine pense-t-elle ?» Alors, je précise au passage que ce titre ne relève nullement d'une volonté de provocation, comme je l'entends souvent dire, mais il fait tout simplement référence, comme je l'indique clairement en note, au titre d'un ouvrage antérieur dû à un très grand indianiste, Guy Bugeaud, un ouvrage qui est paru en 1994 et qui s'intitulait donc « L'Inde pense-t-elle ?». Donc, vous voyez, les indianistes se faisaient du souci avant nous. Hein. Donc, il s'agit donc de faire admettre que, contrairement aux conceptions hegeliennes ou heideggeriennes, la philosophie ne parle pas seulement grec ou accessoirement allemand, mais que ce qui s'est exprimé en chinois peut aussi relever de la pensée philosophique et que par conséquent, cette pensée philosophique en chinois doit être admise à participer à la grande conversation mondiale. Alors, ce qui importe pour nous ici n'est pas de décider si Hu Shi ou Feng Yolan ont eu tort ou raison de lancer une telle revendication, mais plutôt d'observer comment, de facto, ils ont contribué, ainsi que beaucoup d'autres de leurs congénères du XXe siècle, à inventer une langue philosophique en chinois. Alors, cette langue philosophique chinoise fait, comme on l'a vu, elle fait feu de tout bois, puisqu'elle est faite de néologismes forgés par la modernité japonaise. Elle est faite également de traductions ou de transcriptions phonétiques de termes anglais. On vient de voir donc l'exemple du terme logique, logic, donc, qui donne en chinois luoji. Ou bien elle est faite aussi de termes puisés dans le vocabulaire des textes classiques de la tradition chinoise. C'est le cas, par exemple, de l'expression « zijue ». Alors, vous remarquerez au passage que de toutes les langues européennes, seul l'anglais semble entrer en ligne de compte. Hein. Les traductions et les transcriptions se font essentiellement à partir de l'anglais. Alors, à part cela, il ne faut pas oublier non plus que la langue dans laquelle écrivent ces intellectuels chinois modernes n'est plus celle des lettrés traditionnels qui, eux, écrivaient dans une langue dite écrite, hein, qu'on appelle donc le Wen Yan Wen, qui est en fait une langue écrite assez éloignée de la langue parlée. Donc, d'où la difficulté, effectivement, de lire donc, ces textes écrits dans une langue écrite qui est donc, qui a un style spécifique. Alors, dans le contexte moderniste du mouvement du 4 mai 1919, un intellectuel occidentaliste comme Hu Shi ne pouvait faire autrement que s'engager à fond dans ce qui s'appelait à l'époque la révolution littéraire, donc le Wen Xue Ge Ming. Donc, vous voyez que le mouvement du 4 mai 1919 symbolise donc une révolution culturelle avant la lettre. Et c'est évidemment pas étonnant que la révolution culturelle, plusieurs décennies plus tard, s'est beaucoup réclamé donc de l'iconoclasme de cette première révolution littéraire de 1919. Et donc, Rouche a été l'un parmi un certain nombre justement d'intellectuels modernistes et même révolutionnaires, parce que parmi eux figure par exemple quelqu'un comme Chen Duxiu, qui a été ensuite l'un des fondateurs du Parti communiste chinois. Donc vous voyez que ce mouvement du 4 mai 1919, c'est un mouvement à la fois littéraire, culturel, mais aussi politique. Donc Rouche a beaucoup fait pour militer dans le cadre de cette révolution pour le passage à une langue écrite qui soit bien plus proche du chinois parlé. Cette langue qu'on a appelée donc le Paihuawen. Alors le Paihua, c'est littéralement donc le parler blanc. Pai, c'est la couleur blanche. Hua, c'est donc la parole orale. Donc il s'agit là d'une langue blanche, c'est-à-dire transparente ou débarrassée donc de toutes les fioritures et abstrusités, donc si j'ose dire, de la langue écrite des lettrés. Donc une langue qui se veut justement beaucoup plus accessible, disons, au commun des mortels, et qui soit lisible de tous. Donc là, nous avons un souci justement de démocratisation de la langue écrite. Alors, nous assistons ici à, on pourrait dire, l'inverse de ce qui s'est produit lors de ce que nous avons appelé le premier moment de mondialisation de Confucius, ce premier moment qui s'est opéré grâce à la médiation des jésuites, qui ont pour la première fois traduit la langue des classiques chinois dans une langue européenne, à savoir le latin, donc au XVIIe siècle. Et donc, nous avons maintenant ce second moment de mondialisation, puisque ce sont les intellectuels chinois modernes qui traduisent la langue philosophique européenne en chinois et qui prennent le parti d'affirmer que la tradition intellectuelle autochtone chinoise, donc cette tradition qui les a précédés, est en grande partie à considérer comme de la philosophie au sens occidental du mot. Donc, autant le premier moment de mondialisation avait concerné l'Europe, autant on peut voir là donc le centre de gravité se déplacer pour le second moment vers, on pourrait dire, le monde anglo-saxon, l'Amérique du Nord, autant dire les États-Unis, et donc ce monde anglophone représenté donc par les États-Unis. En effet, la double revendication des intellectuels chinois modernes, pour qui donc la philosophie chinoise existe et a une histoire, et pour qui il est possible de philosopher en chinois, eh bien cette double revendication, on peut dire qu'elle ne rencontre guère d'écho dans le magistère philosophique européen de l'après-guerre, le magistère français en particulier, lequel, malgré les efforts de Merleau-Ponty, reste quelque peu crispé sur le fameux geste grec, chanté évidemment d'abord par Heidegger. Je vous rappelle donc ce que Heidegger dit dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» Il dit donc « La philosophie est grecque dans son être même. C'est d'abord le monde grec et seulement lui qu'elle a saisi en le réclamant pour se déployer elle. » Donc Heidegger, dont un des porte-parole les plus ardents en France a été donc Jean Beaufret, qui est mort en 1982, On pourrait dire que Jean Beaufret a été mutatis mutandis à Heidegger ce que Victor Cousin a été à Hegel, c'est-à-dire donc le porte-parole justement d'une grande philosophie allemande en France. Alors, par contraste avec cette crispation, je pourrais dire, sur l'origine grecque de la philosophie et de l'identité européenne, donc par contraste, dans la philosophie universitaire et plus généralement dans l'institution universitaire américaine du monde d'après-guerre, c'est-à-dire des 50-60 dernières années, on a vu se dessiner une volonté de plus en plus affirmée de prendre au sérieux le désir des intellectuels chinois de participer à la philosophie mondiale et d'inviter, donc dans tous les sens du terme, aussi bien intellectuels que matériels, donc d'inviter ces intellectuels chinois à entrer dans les débats en cours dans les milieux académiques américains. Alors ces milieux académiques qui, avec le contrôle tout-puissant des États-Unis sur le monde dit libre après la Seconde Guerre mondiale, ces milieux académiques qui sont eux aussi donc en position dominante dans le monde universitaire. D'où ce que j'ai appelé dans ma leçon inaugurale la véritable autoroute maintenant qui relie donc les deux bords du Pacifique, c'est-à-dire donc la Chine et les États-Unis. Maintenant, il y a un va-et-vient permanent et en temps réel donc des intellectuels, des universitaires et donc en même temps des idées entre le monde universitaire américain et le monde universitaire chinois. Alors donc, nous en arrivons maintenant à ce moment post-Lumière où le destin de Confucius se mondialise à proprement parler. Alors, cette mondialisation de Confucius commence véritablement dans le monde de l'après-guerre, c'est-à-dire un monde qui vient d'être secoué par des conflits étendus pour la première fois à l'échelle proprement planétaire et qui, déboussolé dans ses valeurs, est à la recherche d'un nouvel humanisme. Alors, il est certain que je pense que ce déplacement du centre de gravité de l'Europe vers donc l'Amérique, vers le nouveau continent, on pourrait dire, s'explique aussi par le fait que l'Europe a connu évidemment non seulement les atrocités donc de la guerre, mais aussi bien sûr les aberrations donc des régimes nazis et fascistes donc qui ou fascisants donc qui ont concerné à peu près toute l'Europe. Donc on pourrait dire que les États-Unis se présentent un petit peu comme un monde neuf à cet égard. Alors, dans le contexte de cette recherche d'un nouvel humanisme, l'enseignement de Confucius apparaît comme un humanisme nouveau, au sens où il est d'origine non occidentale et non européenne. Et donc, cet humanisme nouveau se diffuse de plus en plus largement grâce notamment à la multiplication des traductions des entretiens de Confucius, donc le Yu en chinois, dans nombre de langues européennes, mais au premier chef en anglais. En anglais où ce titre est souvent traduit par Analects of Confucius ou The Confucian Analects. Donc Analect reprenant donc le mot d'origine grecque qui désigne donc en fait des fragments de propos. Alors c'est en effet grâce à des traductions donc des entretiens en anglais que l'on commence à sortir des traductions de missionnaires dont les premières, on l'a vu l'an passé, donc, ont été faites en latin par les jésuites dès le XVIIe siècle, la plus fameuse étant le Confucius Sinarum Philosophus, paru, je vous le rappelle, en 1687, donc à la fin du XVIIe siècle. Alors, ces traductions de jésuites en latin ont été suivies au XIXe siècle de traductions en langue vernaculaire européenne, principalement donc en anglais, en français et en allemand. Mais ces traductions, comme on va le voir, du XIXe siècle, continuent à être le fait de missionnaires catholiques ou protestants présents en Chine et le plus souvent assistés dans leur travail de traduction par des lettrés chinois formés jusqu'à l'abolition des examens en 1905, donc jusqu'au début du XXe siècle. Donc ces lettrés chinois qui sont rompus à la technique de l'exégèse canonique, ce qu'on appelle donc en chinois le jingxue, c'est-à-dire donc le xue, c'est-à-dire les études sur les jing, c'est-à-dire les textes canoniques, et notamment des textes canoniques de la tradition confucéenne. Alors, ces lettrés du XIXe siècle, et même du tout début du XXe siècle, sont encore formés à la droite ligne de l'orthodoxie confucéenne et aux méthodes philologiques de l'érudition chinoise traditionnelle, avec une nette prééminence de l'interprétation de Zhu Xi, donc on pourrait dire le Thomas d'Aquin chinois, donc qui a vécu au XIIe siècle, entre 1130 et 1200. Alors, parmi, ça n'est évidemment pas mon objectif de faire donc un passage en revue exhaustif de toutes les traductions existantes en langue européenne, donc des entretiens de Confucius, parce que il y en a à peu près une cinquantaine, mais pour moi en fait l'important est de vous montrer comment on est passé justement de ces traductions de missionnaires, c'est donc une tradition qui se perpétue jusqu'au début du XXe siècle, comment on est passé justement de ces traductions-là à aux traductions, on pourrait dire, sécularisées, et ce que cela implique justement dans la perception de Confucius et dans la lecture donc des entretiens. Alors, parmi les traductions de missionnaires du XIXe et du début du XXe siècle, je vais vous parler donc des plus connus, dont les traductions sont au demeurant encore rééditées et utilisées aujourd'hui. Alors, pour l'anglais, un grand nom domine. Il s'agit donc de James Legge, qui a donc vécu au XIXe siècle, 1815-1897. James Legge, qui est un missionnaire écossais de la branche des Congregationalists. Ne me demandez pas exactement ce que c'est, je ne sais pas trop, mais enfin, disons que c'est un missionnaire qui est parti en Chine en 1839, et avec l'aide d'un lettré chinois du nom de Wang Tao, qui lui donc a vécu de 1828 et qui est mort donc la même année que donc Legge, en 1897. Donc James Legge fait une traduction des entretiens qu'il intitule The Confucian Analects, et dont la première édition paraît dès 1861. dans une série qui s'intitule donc The Confucian Classics, et qui sera ensuite maintes fois réédité. Alors, je voulais vous montrer donc quelques photos ici. Donc là, vous avez James Legge en compagnie justement de ses assistants chinois. Donc là, je ne sais pas exactement comment ils ont travaillé, hein, mais vous voyez que les assistants chinois, qui, je vous le fais observer au passage, portent encore la natte manchoue. Hein. Donc là, nous sommes en plein 19e siècle, nous sommes encore sous la dynastie impériale des Qing, c'est-à-dire la dynastie manchoue, avec donc le port obligatoire de la natte. Alors ces assistants chinois, vous les voyez donc tenir donc les textes originaux en chinois avec les commentaires. Hein, et donc je suppose qu'il y en a un, donc Wang Tao, qui lui connaît un petit peu d'anglais et qui donc donne une première traduction approximative, et Legge donc remet cette traduction en bon anglais, hein, dans un deuxième temps. Alors, dans la photo suivante, vous avez donc le dit Wang Tao, que James Legge rencontre donc à la mission protestante de Hong Kong, et au moment où Legge retourne donc en Écosse, dans son pays natal, il décide de faire venir son assistant chinois, donc Wang Tao, jusqu'en Écosse en 1867, pour justement continuer le travail donc de traduction des classiques chinois. Et alors donc Legge se trouve alors donc dans une petite bourgade d'Écosse qui s'appelle Dollar, comme un dollar américain. Alors ça se situe, alors je ne garantis pas la prononciation, dans le Clackmannanshire en Écosse, hein, et voilà donc l'illustration, hein, de cette bourgade de dollars, hein, que l'on trouve dans un recueil de notes de voyage qu'a fait Wang Tao pendant qu'il voyage justement de Hong Kong jusqu'à Dollar, hein, où il passe évidemment par toutes les grandes capitales européennes. Hein, et donc, pendant ce temps-là, il prend des notes de voyage qui sont probablement, en fait, on pourrait dire, le premier témoignage à peu près systématique d'un voyageur chinois en Europe. Hein, et ce recueil de notes est accompagné de dessins, hein, alors qu'il n'a pas fait lui-même, ça se voit d'ailleurs, parce que là vous avez donc une représentation soi-disant donc de ce village écossais, hein. Alors vous reconnaissez donc le titre qui est à peu près lisible, hein, Tula Youshan, hein, c'est-à-dire donc les une promenade dans les montagnes de Tula, c'est-à-dire de Dollar, donc en transcription chinoise. Donc là, vous voyez comment les effets de montagne écossaise sont rendus, donc on pourrait dire interprétés picturalement, donc par ce peintre chinois. Alors, juste parce que nous sommes à la veille de Noël, on peut s'amuser un petit peu. Donc là, rassurez-vous, j'ai juste quelques images à vous montrer. Alors là, ce serait une représentation d'Édimbourg. Alors, qui est intitulé donc Su Jing Gu Gong, hein, c'est-à-dire donc le palais, le palais de Su Jing, c'est-à-dire donc de la capitale de l'Écosse. Hein. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui sont allés à Édimbourg reconnaissent quelque chose, mais là vous avez une pagode au sommet de la colline d'Édimbourg. Je crois que nous avons plus d'imagination que de réalité. Et alors là, je vous montre l'image parce que ça m'intrigue beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous ont la réponse. Vous avez ici donc, j'espère que vous reconnaissez tous Paris. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Le titre est à peine lisible, mais pour le coup, j'ai vraiment un problème avec cette image parce que là nous avons une représentation du British Museum de Londres. Ça s'intitule donc le Puota Yuan. Il s'agit du British Museum, du musée de Londres. Je ne sais pas si vous les distinguez de là où vous êtes, mais là, je crois reconnaître très nettement un gros poisson dans ce hangar. Même on pourrait dire que ce poisson, c'est une carpe. Alors, je ne sais pas ce que vient faire cette carpe géante au British Museum. Là, j'avoue que je cale. Ici, nous avons donc un bovidé, je pense, une vache. Je ne sais pas si notre peintre chinois a confondu avec le muséum d'histoire naturelle, mais une représentation tout à fait intéressante donc du British Museum par l'imagination chinoise. Pour revenir à notre missionnaire écossais, il faut quand même savoir que James Legge sera tiré donc de sa retraite à Dollar. Par un appel à occuper, à partir de 1876, la première chaire de sinologie de l'université d'Oxford, le Chair of Chinese Language and Literature, donc la chaire de langue et littérature chinoise. Donc nous sommes en 1876, et comme je le disais en poussant une espèce de cocorico l'année dernière, nous en France, nous avons largement anticipé, puisque la première chaire du Collège de France date, je vous le rappelle, de 1814. Donc je disais bien que la France a été en pointe justement dans le domaine de la sinologie en Europe. Alors, puisque justement nous en arrivons à la France, pour ce qui est donc de ces traductions de missionnaires en français, le grand nom est évidemment un missionnaire jésuite qui répond au doux nom de Séraphin Couvreur, qui a vécu donc de 1835 à 1919. C'est un missionnaire jésuite donc qui a demandé à partir en Chine, où il est resté donc à partir de 1870 jusqu'à sa mort. Il est resté en Chine, il est mort à Xi'an donc en 1919. Ce Séraphin Couvreur, en 1895, c'est-à-dire peu de temps après Legge, lui donner le surnom de Legge français. Séraphin Couvreur publie en Chine la traduction donc des Sechos, c'est-à-dire des quatre livres du canon confucéen, ce qu'il appelle les entretiens de Confucius et de ses disciples. Et en plus, donc, le père Couvreur va traduire donc les principaux classiques, c'est-à-dire donc le livre des documents, le Shuting, le livre des odes, le Shuting, le Trencho, c'est-à-dire donc les annales des printemps et automnes, et certains traités sur les rites. chaque fois, le père couvreur donc donne le texte en chinois, la transcription dans ce qui va être de ce qui va devenir en fin de compte la transcription connue sous le nom de la transcription d'école française d'Extrême-Orient, la transcription EFEO. Ensuite, il donne la traduction en français et, en bon jésuite, donc la traduction en latin. Une traduction en latin qui est spécifiquement destinée, dit-il, aux missionnaires et au public européen non francophone. Donc ça, c'est tout à fait remarquable, puisque nous sommes à la toute fin du 19e au tout début du 20e siècle. Et donc, dans l'esprit, en tout cas des jésuites, le latin est encore utilisé comme lingua franca pour donc les clercs, c'est-à-dire donc pour les lettrés, disons, européens. Donc, pour ceux qui ne lisent pas le français, donc il a prévu cette traduction en latin, qui, soit dit en passant, est quelquefois plus exacte que la traduction française. Donc, reportez-vous toujours au latin quand vous utilisez la traduction de Legge. Alors, comme je viens de le dire, ces traductions valent au père couvreur le surnom donc de Legge français, mais selon un autre jésuite qui a vécu bien plus tard, puisqu'il est mort en 1990, le père Joseph de Hergne, la traduction des quatre livres par le père couvreur l'emporte en précision sur celle de Legge. Mais évidemment, comme nous sommes dans le contexte de la même compagnie, on est en droit de se demander si ce jugement est entièrement objectif. Bon. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'allemand, donc la troisième grande langue de traduction des entretiens vers des langues européennes, le grand nom qui prédomine, c'est Richard Wilhelm, qui a vécu, lui, de 1873 à 1930, qui est un pasteur et missionnaire protestant allemand, qui est parti en Chine donc en 1899, c'est-à-dire juste avant que n'éclate la guerre des Boxers. Et là, je crois que je peux vous trouver donc une photo de Richard Wilhelm qui est donc en tant que pasteur en fait qui porte un costume civil, disons. Là, vous avez une autre photo de lui. Alors, de même que James Legge a travaillé donc avec un lettré chinois Wang Tao, Wilhelm, lui aussi, a son lettré chinois de service, si j'ose dire, du nom de, que vous avez ici, donc Lao Nai Xuan, et qui l'a donc assisté pour traduire les entretiens de Confucius en allemand, paru sous le nom de Confucius, ou Kong Fuzi, donc il reprend la transcription chinoise, Gespräche, c'est-à-dire donc les propos de Confucius. Une traduction qui est parue dès 1910. Mais comme vous le savez peut-être, Wilhelm est surtout connu pour sa traduction du Yi Jing, ou comme on prononce ici le Yi King, ou le livre des mutations, sous le titre allemand donc Das Buch der Wandlungen, donc le livre des transformations. Alors, je signale au passage que le séminaire que je contribue à animer ici au collège le jeudi après-midi de 16h30 à 18h porte justement sur ce livre des mutations. Alors, je sais que c'est un livre qui suscite beaucoup la curiosité, mais je préfère Autant je peux vous dire que ce séminaire est ouvert à tous, mais je préfère vous prévenir que nous lisons des textes en chinois ancien. Donc, avis à ceux d'entre vous qui n'arriveraient pas à suivre. Bon, alors donc cette traduction donc du Yi Qing en allemand est parue en 1923. Et elle a connu évidemment un succès mondial puisqu'elle a été retraduite de l'allemand en anglais et puis de l'anglais en français. Donc celle que nous avons actuellement, donc je crois d'un certain monsieur Perrault, est en réalité une traduction de l'anglais et non pas de l'original chinois. Alors, toujours est-il que cette traduction de Wilhelm fait encore autorité parmi donc les là aussi innombrables traductions de ce texte en langue européenne. Alors, de la même façon que James Legge, Richard Wilhelm, à son retour de mission en Allemagne, il rentre en Allemagne en 1924. Et il est nommé à la chaire d'études chinoises qui a été nouvellement créée à l'université de Francfort. Alors là, nous sommes donc dans les années 1920 et donc la sinologie commence tout juste donc à se populariser en Allemagne. Et il est tout à fait intéressant de noter au passage que le travail de Wilhelm exerce une certaine influence sur son ami Carl Gustav Jung, qui est évidemment connu pour justement ses travaux donc en psychologie. Alors là, donc voilà un petit peu si vous voulez, un tour d'horizon de ces traductions de missionnaires. Alors, la première traduction des entretiens qui rompt de manière significative avec cette tradition des missionnaires est probablement donc la traduction en anglais de Arthur David Whaley, qui a vécu donc de 1889 à 1966. Une traduction donc qui est parue sous le titre The Analects of Confucius en 1938. Alors, vous avez ici donc une photo donc de Arthur Whaley. Donc là, je vous montre les photos pas simplement à titre anecdotique, et c'est même pas du tout à titre anecdotique, parce que en fait, comme nous l'avions observé la dernière fois, les détails vestimentaires ont leur importance. Alors là, vous voyez que Arthur Whaley n'a absolument pas donc le profil d'un missionnaire, à tel point que il n'a même jamais mis les pieds en Extrême-Orient. Ce qui ne l'a pas empêché donc de faire une très grande carrière universitaire donc d'orientaliste à la SOAS, c'est-à-dire la School of Oriental and African Studies, l'école d'études orientales et africaines donc de Londres, et ce qui ne l'a pas empêché non plus de faire de nombreuses et d'excellentes traductions du chinois et du japonais. Alors, selon sa propre introduction à sa traduction des Confucian Analects, des Analects of Confucius, donc, sa visée est de faire des entretiens un texte à valeur actuelle. Donc là, Arthur Whaley donc commence déjà à se situer justement dans cette perspective d'actualisation et donc de mondialisation de Confucius. Et pour ce faire, il se propose de remonter en deçà de l'exégèse chinoise donc de Zhu Xi, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les entretiens, pour retrouver, comme il le dit, what it meant to those who compiled it, hein, c'est-à-dire de retrouver ce que le texte signifiait pour ceux qui l'ont compilé. Hein, autrement dit, là, il y a un souci de revenir à la source du texte pour en retrouver justement toute la puissance originelle et donc la valeur pour le monde d'aujourd'hui. Alors, il faut noter que la même année, c'est-à-dire en 1938, paraît à New York un ouvrage qui s'intitule « The Wisdom of Confucius », c'est-à-dire « La sagesse de Confucius », par Lin Yutang, qui a vécu, donc Lin Yutang, dont vous avez le nom ici, qui a vécu donc de 1895 à 1976, et qui est donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, un lettré chinois parfaitement occidentalisé, puisque il est, né en Chine d'un père pasteur. Donc là, vous voyez la connexion là aussi, protestante, mais qui a été formé à Harvard et dans diverses universités européennes, notamment l'université de Leipzig. Autrement dit, c'est quelqu'un donc qui à la fois est d'origine chinoise et qui est parfaitement donc occidentalisé, hein, et comme vous le voyez, qui joue aussi un petit peu justement sur de manière vestimentaire, tantôt sur le costume trois pièces à l'occidental, et de temps en temps qui se fait photographier donc dans la tenue du lettré chinois traditionnel, hein, donc avec le col manchou. Alors ce Lin Yutang donc jouit dans les années 30 et 40 d'une très grande audience dans le monde anglo-saxon, américain notamment, puisque par exemple il est proche de la femme écrivain américaine donc Pearl Buck, que vous connaissez sans doute, et on a même songé à lui plusieurs fois pour le prix Nobel, hein, de littérature, qu'il a raté plusieurs fois donc. Donc c'est celui qui s'emploie à faire connaître la culture chinoise et qui a joué ce rôle de passeur donc entre le monde chinois et le monde américain. Et c'est donc tout à fait intéressant qu'en 1938 sorte en même temps donc la traduction des entretiens par Whaley et cette présentation donc de la sagesse de Confucius par Lin Yutang au public américain, et qui reprend donc justement pas mal d'extraits donc des entretiens. Alors c'est également donc le contemporain de Arthur Whaley, le poète américain Ezra Pound, qui a vécu donc de 1885 à 1972. Qui a vraisemblablement aidé justement à la publication des premières traductions de Whaley, parce que vous connaissez peut-être justement ce poète américain, donc a la réputation extrêmement sulfureuse à cause justement de ses sympathies pour le régime fasciste de Mussolini, hein, qui a même séjourné longuement en Italie donc pendant la période fasciste, hein, et naturellement, enfin c'est une réputation qui ensuite lui a collé aux semelles, mais ça n'empêche pas que c'est quand même un très grand poète et qui s'est très tôt intéressé justement à la graphie et à la nature justement de l'écriture chinoise. Alors, de manière évidemment très très personnelle. Alors, c'est dans cette perspective qu'il s'est intéressé aux travaux du sinologue britannique Whaley, et qui l'a donc aidé à publier justement ses premières traductions. Et c'est sans doute justement en s'inspirant des travaux de Whaley que Ezra Pound a publié plus tard donc sa propre traduction des classiques confucéens, hein, alors qu'il a traduit de manière extrêmement idiosyncrasique, comme on dirait en anglais. Hein. Alors, le Ezra Pound, vous le voyez ici très jeune, donc en 1913, et là beaucoup plus tard, donc en fin de vie. Alors, ces traductions donc des textes confucéens, et notamment donc des entretiens de Confucius, sont parus à Londres donc en 1951. Alors donc sa traduction évidemment n'est pas prise du tout au sérieux par les sinologues. Alors naturellement, Ezra Pound n'a jamais prétendu faire partie donc de ce cercle des sinologues, mais disons que ce qui est intéressant dans la traduction de Pound, c'est que c'est véritablement l'expression d'un grand chantre de la, bien sûr, de la liberté littéraire et même poétique, au détriment quasi total donc du parti pris de littéralité. Alors bien sûr, la traduction de Pound est truffée de contresens, hein, mais elle est également truffée de belles trouvailles de traduction. Et alors, dans ses propres termes, il a voulu une traduction remplisse justement ce cahier des charges. Il dit ceci dans son introduction: The translation succeeds in its moderate aim if it gives the flavor of laconism and the sense of the live man speaking. C'est-à-dire, donc, la traduction remplit sa mission minimale pour peu qu'elle fasse passer la saveur du laconisme, hein, de la brièveté, de la concision du texte des entretiens, et une sense, hein, c'est-à-dire donc une idée, hein, concrète du bonhomme vivant et parlant. Donc là, tout le mérite justement de la traduction de Pound, hein, c'est de mettre le doigt sur deux aspects encore relativement peu pris en compte jusqu'alors, à la fois par les traductions des missionnaires et par les traductions des sinologues, à savoir donc la qualité littéraire des entretiens. C'est-à-dire, là, nous avons un poète qui a donc le sens du rythme et le sens du rendu justement de cette concision, hein, et qui est donc en mesure de faire passer justement la sensation d'un Confucius vivant et parlant. Alors, cette double exigence se retrouve à des degrés très divers dans les dizaines de traductions des dernières décennies, hein, qui toutes s'efforcent de rendre Confucius proche de nous, hein, en employant un langage direct et contemporain, voire familier, débarrassé donc des maniérismes qui sont liés à son image traditionnelle de sage, de vieux sage sentencieux et suranné. Hein. Alors, modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma propre traduction, hein, qui, elle, date déjà de 1981, hein, mais je peux vous avouer, ici, entre nous, hein, que j'aurais très envie de la refaire de fond en comble. Hein. Alors, donc, pour terminer, hein, sur une note chinoise sur cette année, donc, nous allons faire un petit exercice, nous allons prendre la toute première phrase des entretiens et voir comment elle est traduite par différents traducteurs en anglais, hein, que nous avons évoqués ce matin. Alors, le texte en chinois dit ceci: « Ziyue, 学而实习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？ Alors, donc, je vous ai disposé le texte, d'abord avec de la ponctuation, qui n'existe évidemment pas dans le texte original, et je l'ai disposé de manière à dégager donc le parallélisme entre les trois phrases donc, qui composent cette première section, cette toute première section qui ouvre donc les entretiens de Confucius. Alors, vous avez d'abord la formule canonique « zi yue », c'est-à-dire donc « le maître dit ». Alors, « zi », je rappelle, donc, ça peut désigner le maître ou, de manière intéressante, l'enfant. Hein, et donc, tous les textes de maître de l'Antiquité donc, se terminent par ce terme « zi ». C'est ainsi que vous avez le « zhuangzi », le « mengzi », le « laozi », etc. Bien. Alors, le maître dit… Et ensuite, vous avez donc ces propos qui sont rapportés prétendument au discours direct. Alors, cette première section est composée de ces trois phrases qui sont manifestement mises en parallèle, puisque vous reconnaissez donc ici les mêmes éléments, hein, cette formule pui, qui se termine par rou, pui, rou, pui, rou. Alors, la première phrase, je la traduis très, très littéralement, donc xue, vous retrouvez toujours ce mot clé dans le vocabulaire confucéen, donc l'étude ou étudier, apprendre. Et là, vous avez diverses interprétations, donc, et pratiquer, donc mettre en pratique ce qu'on a appris, donc shi. Alors là, on peut le comprendre de diverses manières, c'est-à-dire soit dans le temps, dans la durée, hein, soit de manière régulière, soit de façon, enfin, dans des circonstances opportunes. Hein, shi désigne le temps ou le moment. Hein. Bon, comprenez-le comme vous voulez. Hein, vous allez voir que les traductions sont assez divergentes. Donc, pui yue hu, est-ce que ça n'est pas une joie? Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu de chinois, vous allez me dire, mais madame, ce que je lis là, c'est shuo. Hein. Bon, alors, en fait, il s'agit ici donc d'un caractère emprunté, hein, mis pour un autre, qui signifie donc yue, enfin qui se prononce yue et qui dit donc, qui veut dire une joie ou un plaisir. Bon, deuxième, alors vous avez donc cette première phrase interro-négative. Hein. Deuxième phrase, yo peng zi yuan fang lai, donc avoir un peng, peng yo, hein, c'est-à-dire un ami qui vient de loin. N'est-ce pas une joie? Le, hein, le, c'est encore plus fort que le yue ici. Hein. Donc cette phrase, alors évidemment, c'est la phrase qu'il convient de sortir quand vous avez un hôte, hein, qui justement vient de loin, un ami qui vient de loin, et c'est évidemment une phrase qu'on a mise en avant au moment des Jeux Olympiques de Pékin. Bon, donc c'était un peu la phrase slogan des Jeux Olympiques. Troisième phrase, ren bu zhi er bu yun, c'est-à-dire donc littéralement le fait que les hommes ou que les autres, parce que jeune peut avoir les deux sens, le fait que les hommes ou que les autres ne vous connaissent pas ou ne vous reconnaissent pas sans en concevoir de l'amertume, de l'aigreur ou de l'ombrage, hein, est-ce que ça n'est pas le fait du junzi? Nous aurons l'occasion de revenir sur ce terme, mais Tuns, c'est littéralement donc l'enfant ou le fils du Tun, c'est-à-dire du prince. Autrement dit, donc un fils de prince ou un noble, un homme de rang élevé. Et vous allez voir que les traductions, là aussi, diffèrent. Alors, je vous lis la traduction de James Legge, traduction donc de missionnaire protestant écossais. Hein. Alors, the master said, is it not pleasant to learn with a constant perseverance and application? Is it not delightful to have friends coming from distant quarters? Is he not a man of complete virtue? A man of complete virtue, c'est comme ça qu'il traduit Junzi, donc, who feels no discomposure, though men may take no note of him. Donc là, vous reconnaissez donc le vocabulaire assez moralisant donc du missionnaire. Hein. Donc il s'agit de persévérance et d'application. Il s'agit d'être un homme de vertu accompli. Hein. Et là, vous reconnaissez le gentleman anglais, hein, l'homme de vertu accompli, hein, ne connaît pas le discomposure. Pour un gentleman anglais, hein, le composure, c'est-à-dire le self-control, hein, le contrôle de soi, c'est absolument primordial. Je prends ensuite la traduction de Arthur Whaley. Alors là, donc, nous avons cette traduction qui n'est plus celle d'un missionnaire, mais d'un sinologue britannique. The master said, to learn and at due times to repeat what one has learned, is that not after all a pleasure? That friends should come to one from afar, is this not, after all, delightful? To remain unsoured, even though one's merits are unrecognized by others, is that not, after all, what is expected of a gentleman? Bien. Alors, donc, là, vous voyez, le « after all », c'est comme ça que Whaley comprend le « pui », la formule « pui », « rou ». Et vous avez cette terminaison, donc, justement, sur le « gentleman hein, ». C'est comme ça qu'il comprend, donc, le « tunzi ». Et enfin, donc, la traduction de Ezra Pound. Hein, « He said » donc, he, c'est lui, l'autre là, enfin le hein, donc lui se passe du maître. Hein, donc he said, study with the seasons winging past, is not this pleasant? To have friends coming in from far quarters, not a delight. Unruffled by men's ignoring him, also indicative of high breed. Alors là, vous voyez comment passons donc de traductions qui deviennent de plus en plus concises. Alors, inutile de vous dire que la traduction de Ezra Pound, hein, elle respecte le rythme hein, de la phrase chinoise, hein, donc elle essaye de s'en approcher en tout cas. Hein, mais alors, l'idée hein, des saisons qui passe à tire-d'aile, hein, c'est très joli, mais je crois que c'est un peu loin du texte. Hein. Bon, ce que je note aussi, c'est comment dire, le tunes traduit par que c'est le signe de quelqu'un de high breed, hein, c'est-à-dire de haute naissance et je pourrais dire presque de race supérieure. Alors là aussi, nous avons quelque chose qui, comment dire, sonne, enfin, a des résonances peut-être un peu sulfureuses, hein, mais nous avons quelqu'un qui s'intéresse justement à cette espèce d'aristocratie hein, de l'esprit. Et c'est donc sur justement ces bonnes paroles hein, que nous allons nous quitter non sans nous souhaiter donc de bonnes fêtes de fin d'année pour vous tous et rendez-vous donc le jeudi 6 janvier même endroit, même heure et si possible sans la neige et si je peux me permettre juste une dernière recommandation, si vous cherchez donc des cadeaux de Noël à faire, je vous signale donc l'existence d'une nouvelle collection donc aux éditions des Belles Lettres. une collection de budets chinois. Après donc les budets grecs et les budets latins, vous avez maintenant les budets donc pour en chinois classique, avec donc le texte chinois en vis-à-vis de la traduction française. Et là, vous avez par exemple une très belle traduction de notre maître Jean-Pierre Dieny des 19 poèmes anciens. Pour ceux d'entre vous qui connaissent trois mots de chinois, ça peut valoir la peine. Merci encore à vous et à l'année prochaine. Merci.